Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Dominique Parent, de la Direction de la Programmation culturelle. Dans le cadre de ces grandes conférences, Bibliothèque et Archives nationales du Québec est heureuse d'accueillir M. Simon Langlois, professeur titulaire au département de sociologie de l'Université Laval, qui nous présente ce soir la conférence « Alexis de Tocqueville au Bas-Canada, un visiteur clairvoyant ». Cette conférence est présentée dans le cadre d'un partenariat entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Société des 10, dont M. Langlois est l'un des distingués membres. Voudrais maintenant vous présenter notre partenaire. La Société des 10 regroupe 10 spécialistes de l'histoire du Québec et de l'Amérique française. Leurs travaux portent autant sur l'archéologie de la Nouvelle-France que l'histoire contemporaine, l'ethnologie, l'histoire des Amérindiens, de la politique, de la littérature, des idées, de la musique, de l'art et de la société de consommation paraissent chaque année depuis 1936 dans les cahiers des 10. La prochaine conférence de la Société des 10 aura lieu mercredi le 10 octobre et sera donnée par M. Denis Delage, professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval. Il retracera pour nous l'histoire fascinante du chien au temps de la colonie. La conférence de M. Langlois est enregistrée et vous pourrez la réentendre sur notre site Internet. Elle sera suivie d'une période de questions. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos cellulaires. Merci. Et sans plus tarder, je cède la parole à M. Langlois. Je vous souhaite une bonne soirée.
Alors, chers collègues de la Société des 10, chers amis de la bibliothèque, mesdames, messieurs, chers étudiants. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'aimable invitation que vous m'avez faite, d'autant plus que nous avons célébré récemment le 200e anniversaire de la naissance d'Alexis de Tocqueville. Cet anniversaire a été célébré en grande pompe en France et aux États-Unis, un peu moins ici. Malheureusement, Tocqueville est passé inaperçu et ce soir, je pense que ce sera une bonne occasion pour nous d'évoquer sa mémoire et en particulier d'évoquer le voyage qu'il a fait chez nous. L'université Yale à New Haven, près de New York, avait organisé l'an dernier un grand colloque sur Tocqueville et j'y ai participé pour présenter une conférence. Et j'y suis allé en avion donc de Québec à New York parce qu'il y a un vol direct de la capitale vers la métropole américaine. Alors, et contrairement à ce qui se passe ici à Montréal, où on doit franchir la douane américaine sur place à l'aéroport Trudeau, à Québec, on n'a pas ce service, donc il faut le faire aux États-Unis. Alors, les douaniers américains, vous le savez, sont devenus un peu soupçonneux. Bon, on nous pose toutes sortes de questions. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le but de votre voyage? Alors, je réponds simplement, je suis professeur à l'Université Laval et je viens faire une conférence à l'Université Yale sur Tocqueville. Et le douanier, un jeune homme dans la trentaine, affiche un large sourire tout à coup et me répond « Oh, Alexis de Tocqueville, what a great man! » Alors, vous le voyez, les douaniers américains connaissent Tocqueville. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que nos douaniers à nous le connaissent, mais bon. Alors, donc… L'année 2005-2006 marque le 200e anniversaire de naissance d'Alexis de Tocqueville, célèbre de ce côté-ci de l'Atlantique pour son ouvrage « De la démocratie en Amérique », écrit après un long voyage de 10 mois aux États-Unis, soit du 9 mai 1831 jusqu'au 20 février 1832, alors qu'il n'avait que 25 ans. Il a fêté ses 26 ans en Amérique. Tocqueville est né en 1805 à Paris, dans une grande famille aristocratique française. Il était l'arrière-petit-fils de Malherbe et le cousin éloigné de Chateaubriand. Son père et sa mère ont été emprisonnés à Paris sous la Terreur, à l'époque de la Révolution française, et sauvés in extremis de l'échafaud. Avocat de formation, il est devenu magistrat au début de sa carrière et il a épousé une Anglaise, Marie Motley. À 25 ans, il a traversé l'Atlantique officiellement afin d'étudier le système pénitentiaire américain, mais aussi dans le but de comprendre les institutions démocratiques, le système fédéral de la Nouvelle République. Rappelons-nous que la Révolution française n'avait que 50 ans. Il publie en 1835 « De la démocratie en Amérique », le premier tome en fait, le deuxième suivra quelques années plus tard. Ce premier tome connut un énorme succès d'édition. Il s'agit d'une description minutieuse de la société américaine de l'époque et de ses institutions. Le second livre est différent. Il s'agit plus d'un ouvrage de sociologie et de philosophie politique qui prend prétexte des États-Unis pour analyser aussi les sociétés européennes en mutation. Tocqueville y énonce plusieurs idées maîtresses sur le progrès de l'égalité et sur l'avènement de la centralisation dans les sociétés démocratiques. Il a été élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques et député de Valognes en Normandie en 1839, puis brièvement ministre des Affaires étrangères du gouvernement français en 1849. Il se retire alors de la vie politique et publie par la suite « L'Ancien Régime et la Révolution » en 1856 et il meurt à 54 ans à Cannes. Tocqueville est un aristocrate de cœur, mais un démocrate de raison. « J'ai pour les institutions démocratiques un goût de tête, mais je suis aristocratique par l'instinct », écrit-il. Il prend tôt conscience que l'ordre social ancien est révolu et que la démocratie est l'avenir des sociétés, mais surtout que l'égalité entre les individus est la grande tendance qui va s'imposer, démocratie et égalité étant liées, ce qui n'était pas évident dans la France de son époque. Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions, écrit-il dans La démocratie en Amérique. Malgré le succès indéniable qu'a connu son ouvrage lors de sa publication, et malgré le fait que Tocqueville ait été élu très jeune à l'Académie des sciences morales et politiques, il a été ignoré comme penseur important en France pendant un très long purgatoire, même s'il n'a jamais été oublié des historiens officiels. Nos cousins français l'ont redécouvert dans les années 1960, notamment à la suite de la publication du cours de Raymond Aron sur les étapes de la pensée sociologique, dans lequel il faisait de Tocqueville l'un des auteurs classiques de la sociologie. Malgré cela, il a fallu attendre les années 1980 avant que la pensée de Tocqueville ne jouisse d'une pleine reconnaissance dans l'Hexagone et n'apparaisse au programme des concours scolaires. Henri Mendras a joué un rôle important dans cette reconnaissance et Raymond Boudon, dans son Tocqueville aujourd'hui, publié en 2005, vient pour sa part d'élever Tocqueville au rang des pères de la sociologie en explicitant le paradigme tocquevillien et la logique de sa pensée. Le purgatoire de Tocqueville a été bien moins long aux États-Unis, où il est reconnu et lu comme un grand classique, le Montesquieu des Américains, avance ma collègue Françoise Mélonio. Relire Tocqueville sur l'Amérique, relire Tocqueville sur la démocratie, est encore d'une grande pertinence, et les élites américaines, tant d'orientation libérale que conservatrice, n'hésitent pas à le citer régulièrement. Le président Bush y compris. Le bicentenaire de la naissance de Tocqueville est passé inaperçu au Québec et au Canada, mais il n'est pas trop tard pour le souligner. Cet oubli est regrettable parce que Tocqueville a visité le Bas-Canada, c'est-à-dire le territoire actuel du Québec, lors de son périple nord-américain. Alors, j'ai préparé ici une carte qui vous donne les trajets que Tocqueville a parcourus en Amérique, et vous voyez qu'il a poussé une pointe jusqu'à Québec. En réalité, la carte est incomplète parce que je vous expliquais tantôt qu'il est allé aussi jusqu'à Montmagny. Enfin. Donc, cet oubli est regrettable parce qu'il a visité notre pays, notre coin de pays, et parce qu'il a écrit de nombreuses pages fascinantes à lire sur les Canadiens et la vie de l'époque. Il est le père d'une sociologie politique nouvelle, avance Raymond Boudon. Il était aussi un sociographe attentionné et un homme de terrain dont les observations sont restées précieuses pour comprendre notre époque, notamment parce qu'il a adopté une perspective comparatiste, précieuse aussi pour comprendre notre société québécoise. La plupart des textes de Tocqueville relatifs au Bas-Canada, lettres à ses proches, carnets d'observations, extraits de ses ouvrages, ont été écrits à chaud lors même du voyage en Amérique, alors que les deux démocraties, s'appuyant sur des sources détaillées, ont été rédigées avec un certain recul et corrigées après diverses consultations. Les ouvrages majeurs de Tocqueville contiennent ici ou là quelques références sur la situation au Canada, dont il se sert pour illustrer un aspect de sa pensée, mais aucun ne propose une analyse complète de l'ex-colonie française. Les écrits épars de Tocqueville sur le Bas-Canada ont été rassemblés en livres d'abord par Jacques Vallée, alors Tocqueville au Bas-Canada, et ensuite, 25 ans plus tard, donc Vallée en 1973, et 30 ans plus tard, 2003, Claude Corbeau a publié un ouvrage plus complet, « Regard sur le Bas-Canada », en exploitant les œuvres complètes et la correspondance de Tocqueville devenue entre-temps accessible au grand public. L'analyse de la question canadienne occupe une place mineure dans l'œuvre de Tocqueville, mais Claude Corbeau souligne avec justesse qu'on retrouve dans ses écrits épars et dans sa correspondance les grands thèmes tocquevilliens que sont la démocratie, la nation, l'égalité, la liberté des classes sociales, précisant que ses lettres et carnets de notes sur le Canada sont instructifs sur la genèse de la pensée de Tocqueville. J'ajouterai que les écrits de Tocqueville ont aussi valeur de documents de première main sur la société canadienne de l'époque et plus précisément sur le Bas-Canada, le Québec. Tocqueville aime questionner les gens ordinaires. Il interroge les élites sur la marche des institutions et sur les enjeux sociaux. Il observe tout ce qui l'entoure. Il analyse ce qu'il voit. Il décrit les lieux qu'il fréquente et les paysages sauvages qu'il a devant les yeux, parfois à la manière de son cousin, de son grand-cousin, Chateaubriand. Je pense à son texte « 15 jours dans le désert », écrit sur la région des Grands Lacs, encore à l'état sauvage, et à sa description des chutes du Niagara ou du fleuve Saint-Laurent qu'il remonte en bateau depuis Kingston. Relisons ce compte-rendu de son séjour à la pointe du lac Huron, qui caractérise bien Tocqueville, l'homme de terrain. Nous prenons un guide canadien et nous allons visiter la roche percée, pittoresque. Beaumont va la dessiner. Moi, je vais rôder suivant mon usage. Je veux voir le curé, mais il n'y est pas. Un camp de Canadiens sur le rivage. Un bivouac autour du feu. Un Canadien à l'air et aux manières françaises, gai, ouvert, énergique. Des bois brûlés. Je m'assois à leur feu et je cause avec eux. Dans son œuvre, Tocqueville se préoccupe de trouver la vérité. Donc, il n'est pas du tout un relativiste culturel, comme on dirait aujourd'hui. Visitant le Canada, il prend des notes dans ses carnets et Beaumont, son ami et compagnon de voyage en Amérique, fait des croquis de ce qu'ils voient tous les deux, depuis les oiseaux jusqu'aux Amérindiens, en débit, sans oublier les paysages naturels et urbains, comme la chute Montmorency à Québec, avec sur son flanc gauche une belle maison de bois au toit rouge, bien connue des Québécois, le manoir Montmorency. Dessin qui se trouve aujourd'hui dans les connexions de la Beinecke Library à Yale University. Tocqueville se questionne aussi sur les sociétés à partir de ses préoccupations d'homme d'action et de philosophe, intéressé par la recherche de solutions aux problèmes contemporains. C'est ce qui donne de la pertinence à ses écrits sur le Bas-Canada, comme à ses autres analyses qui nous parlent encore de nos jours. Alors, mon premier point, Tocqueville, le voyageur. Le voyage au Canada de Tocqueville est une parenthèse qui n'avait pas été planifiée longtemps à l'avance, ce qui est attesté par l'examen des lettres rassemblées par Corbeau. Lors de ma précédente lettre, je ne croyais pas faire ce voyage, écrit-il d'Albany sur la voie de son retour aux États-Unis. Dès son arrivée en Amérique, Tocqueville a visité les villes de l'époque et il a recueilli des données sur le système carcéral américain, le but officiel de son séjour. Mais il désirait aussi voir la nature sauvage et en particulier les Indiens, de plus en plus refoulés vers l'ouest. Le 1er août 1831, il s'embarque sur le steamboat qui le mènera dans les Grands Lacs, à Sault-Sainte-Marie, puis vers le Saint-Laurent, Kingston et Montréal, où il entamera son bref séjour canadien. Au début de ce périple, il écrit un long récit de voyage, auquel je viens de faire allusion, « 15 jours dans le désert », dans lequel il relate sa rencontre avec les Indiens, mais aussi avec les Métis bois brûlés, et les Canadiens, en fait les Canadiens français, mais les Canadiens tout court à l'époque, un texte qui comprend de belles pages sur la nature sauvage qu'il rêvait de découvrir. Une des choses qui piquait le plus vivement notre curiosité, écrit-il, en venant en Amérique, c'était de parcourir les extrêmes limites de la civilisation européenne et même, si le temps nous le permettait, de visiter quelques-unes de ces tribus indiennes qui ont mieux aimé fuir dans les solitudes les plus sauvages que de se plier à ce que les Blancs appellent les délices de la vie sociale. Tocqueville a rencontré dans les Grands Lacs un Canadien qui fit sur lui grand effet. Bon, je le cite. L'homme était accroupi au fond de cette fragile embarcation, un canot. L'homme qui était accroupi au fond de cette fragile embarcation portait le costume et avait toute l'apparence d'un Indien. Comme je me préparais moi-même à y monter, le prétendu Indien s'avança vers moi, me plaça deux doigts sur l'épaule et me dit avec un accent normand qui me fit tressaillir, « N'allez pas trop vite, il y en a des fois qui s'y noient. » Mon cheval m'aurait adressé la parole que je n'aurais pas, je crois, été plus surpris. J'envisageais celui qui m'avait parlé et dont la figure frappée des premiers rayons de la lune reluisait alors comme une boule de cuivre. « Qui êtes-vous donc ?» lui dis-je. « Le français semble être votre langue, mais vous avez l'air d'un Indien. » Il me répondit qu'il était un bois brûlé, c'est-à-dire le fils d'un Canadien et d'une Indienne. Suivant les conseils de notre compatriote le sauvage, je m'assis au fond du canot et me tins aussi en équilibre qu'il m'était possible. Le cheval entra dans la rivière et se mit à la nage, tandis que le Canadien poussait la nacelle de l'aviron, tout en chantant à demi-voix sur un vieillard français le couplet suivant dont je ne saisis que les deux premiers vers, entre Paris et Saint-Denis, il était une fille. Permettez que je ne chante pas pour vous. Alors, Tocqueville n'est resté que 14 jours au Canada, débarquant à Montréal le 23 août 1831, allant ensuite 2 jours plus tard à Québec, qu'il visite avec John Neilson, et poussant l'exploration jusqu'à Montmagny, sur la rive sud du Saint-Laurent, seul avec Gustave Beaumont, son compagnon de voyage. Dans sa correspondance, Tocqueville raconte avec beaucoup d'émotion sa découverte des Canadiens, un peuple de 600 000 habitants qui a survécu à la cession par la France, de sa colonie canadienne à l'Angleterre, par le, et je cite, « le honteux traité de 1763 », l'une des plus grandes ignominies de l'ignominieux règne de Louis XV. » Fin de la citation. Tocqueville précise dans une autre lettre, « Il n'y a pas 6 mois, je croyais comme tout le monde que le Canada était devenu complètement anglais. » Ça résume bien, je pense, la vision que les Français de l'époque avaient de ce qui restait de la colonie. Dans ses écrits sur le Canada, il n'est donc pas surprenant de voir que l'aristocrate de cœur cohabite avec le démocrate de tête, pour reprendre la distinction rappelée au début de mon exposé. Tocqueville évoque avec émotion la découverte d'une vieille France en terre d'Amérique et le français parlé avec l'accent de Normandie dans les campagnes, comme en témoigne une de ses lettres à sa belle-sœur Émilie. « Nous sommes revenus par le Canada. Si jamais vous allez en Amérique, chère sœur, c'est là qu'il faut venir vous établir. Vous retrouverez vos chers bas normands, trait pour trait. Monsieur Gilles, Madame Noël, j'ai vu tous ces gens-là dans les rues de Québec. » Dans une autre lettre, il écrit « Singulier effet que cause sur nous cette langue française entendue à la fin du monde avec ses vieilles tournures et son accent provincial. » Mais Tocqueville est troublé par la domination de la langue anglaise dans l'espace public et par l'envahissement de l'anglais dans la langue parlée par l'élite et les commerçants qu'il a rencontrés. La conclusion de sa description d'une session du tribunal de Québec évoque bien l'homme de sentiment qu'il était. Je n'ai jamais été plus convaincu qu'en sortant de là que le plus grand et le plus irréductible malheur pour un peuple, c'est d'être conquis, écrit-il dans ce texte souvent cité. Sachant que la liberté est la première de ses passions, on peut facilement imaginer qu'il ait évoqué cette situation avec tristesse, je le cite. Je continue. Il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu, ou encore, la population du Canada ne compte 1 million d'habitants. Sa population est divisée en 2 nations ennemies, ajoute-t-il dans la première démocratie. Mais Tocqueville doute qu'il puisse exister une union indissoluble entre les deux peuples anglais et français. J'espère encore que les Français, en dépit de la conquête, arriveront un jour à former à eux seuls un bel empire dans le Nouveau Monde, plus éclairés peut-être, plus moraux et plus heureux que leurs pères. Pour le moment actuel, cette division entre les races est singulièrement favorable à la domination de l'Angleterre. Alors, mon deuxième point, ce que Tocqueville a vu au Bas-Canada. Dans son livre « De la démocratie en Amérique », Tocqueville s'attarde à scruter 3 dimensions de la société qui lui paraissent en interaction. C'est là sa méthode d'analyse sociologique. Dès les premières pages de l'ouvrage, il annonce en effet l'examen successif du contexte et des circonstances, des lois et institutions, et finalement de la culture. Rappelons qu'il classe dans ce dernier thème les idées, les représentations, les sentiments, les comportements. Son analyse de ce dernier aspect s'appuie sur sa lecture des journaux américains, sur les entrevues qu'il a faites sur le terrain avec les élites et les citoyens ordinaires, et sur son examen des travaux publiés sur les États-Unis, lus pendant son séjour américain, bien sûr, mais aussi après son retour en France. Nous nous inspirerons de sa démarche dans les lignes qui suivent pour exposer sa vision du Bas-Canada. Que pense Tocqueville du Canada? Jacques Vallée, Jean-Michel Leclerc, Gérard Bergeron, Stéphane Dion, qui a fait sa thèse de doctorat sur Tocqueville, et Claude Corbeau notamment, ont présenté plusieurs éléments de sa pensée. Je rappellerai pour ma part les principaux éléments de la sociographie de Tocquevillienne du Canada français, en reprenant la perspective qui était la sienne dans « De la démocratie », donc en les groupant selon les trois dimensions qu'il avait distinguées, le contexte, les institutions et la culture. Tocqueville insiste d'abord sur le poids des nombres. Frappé par la forte croissance de la population américaine, il évoque le doublement de cette dernière à tous les 22 ans, et il entrevoit une Amérique comptant plus de 100 millions d'habitants à la fin du 19e siècle, une estimation qui s'est avérée n'être pas très loin de la réalité. Le nombre qui fait la force des Américains est la faiblesse des Canadiens. « Ce ne sera jamais un peuple nombreux », écrit-il. Mais il entrevoit l'avenir avec un certain optimisme. Il faut rappeler qu'il y avait plus d'Allemands d'origine en Pennsylvanie que de Canadiens dans la vallée du Saint-Laurent au moment de la conquête anglaise, 60 000 au total chez nous, un fait que Tocqueville souligne lui-même. Les Américains sont mobiles sur le territoire, deuxième point. Des millions d'hommes marchent à la fois vers le même point de l'horizon. Leur langue, leur religion, leurs mœurs diffèrent, leur but est commun. Tocqueville souligne que les Canadiens qu'il a rencontrés dans le Bas-Canada restaient attachés à leur terre et ne voulaient pas aller vers l'Ouest. Cette observation, on le sait, ne sera plus valable quelques années à peine après le départ de Tocqueville. La sédentarité des Canadiens notée par Tocqueville était sans doute récente et elle marquait un changement majeur dans l'histoire car les Canadiens français avaient toujours circulé sur de très longues distances et largement exploré le territoire nord-américain, laissant ici ou là une descendance, souvent de fois métissée avec les premiers occupants. Tocqueville en avait déjà remarqué la présence dans les régions du centre du continent lorsqu'il s'était aventuré en dehors des sentiers battus. Ce sont d'ailleurs souvent des Canadiens français ou encore des métis bois brûlés, en effet, qui lui ont servi de guide. La rencontre de ces Canadiens a été pour Tocqueville l'occasion de juger sévèrement l'incapacité de son pays, la France, à coloniser et à conserver l'empire de la Nouvelle-France à cause d'une centralisation excessive. Au Canada, un intendant a une position bien autrement prépondérante que celle qu'avaient ses pareils en France. Une administration se mêlant encore de bien plus de choses que dans la métropole et voulant de même faire tout de Paris malgré les 1800 lieues qui l'en séparent. Cela se passe sous Louis XIV, ses édits sont contresignés Colbert. Les colonies britanniques, au contraire, sont décentralisées et jouissent d'une plus grande liberté intérieure. Tocqueville précise, c'est dans les colonies qu'on peut mieux juger la physionomie du gouvernement de la métropole, parce que c'est là que d'ordinaire tous les traits qui la caractérisent grossissent et deviennent plus visibles. Quatrièmement, l'ère des grandes explorations et de l'occupation du territoire loin de la vallée du Saint-Laurent par les Canadiens est révolue à cette époque. Tocqueville s'inquiète même de l'absence de mobilité et il prévoit des difficultés que les Canadiens auront un jour devant les limites physiques de l'espace cultivable sur leur territoire de l'époque. Sur ce point, il avait tout à fait raison, comme le montrent les nombreuses migrations qui allaient suivre par la suite à la fin du 19e siècle. Tocqueville avance l'hypothèse que la mobilité géographique se fait en deux temps sur le territoire. Les nouveaux immigrants s'installent dans les villes et dans les lieux bien établis, souvent là où se trouvent déjà des compatriotes, comme ce fut le cas pour les migrants canadiens-français, d'ailleurs, qui se sont établis en paroisse, en Nouvelle-Angleterre, en Ontario et dans l'Ouest canadien. Ce sont les générations suivantes qui migrent plus loin et en dehors de leur communauté, ou encore dont les enfants se marient avec des individus appartenant à d'autres cultures, avance-t-il. Il observe que ce sont les Américains de vieil établissement qui migrent vers l'Ouest, alors que les immigrants européens s'installent dans les villes de l'Est. Vous le savez, vous le voyez, Tocqueville a, sur la migration, une intuition qui a par la suite été formalisée dans les travaux de nombreux spécialistes du phénomène. Cinquièmement, la masse des immigrants est démunie sur le plan économique. Ce ne sont pas les riches qui immigrent, observe Tocqueville, qui ajoute cette remarque pertinente, « Les immigrants vivent une situation analogue. » Fin de la citation. Ce qui donne une certaine unité objective à leur situation. Si divers soient-ils, par leurs caractéristiques propres, ils ont en effet une chose en commun. Ils viennent d'ailleurs et la majorité d'entre eux repart à zéro avec peu de moyens propres. Les immigrants sont diversifiés par leurs origines nationales diverses, certes, mais ils sont par contre dans une situation structurelle identique, une situation analogue, pour reprendre les mots mêmes de Tocqueville, dont il a noté toute l'importance. Certains analystes s'inquiètent des effets déstructurants que pourrait avoir une immigration trop importante dans un milieu donné. Discours très contemporain, comme vous le savez. La situation analogue qu'ils vivent est au contraire, selon Tocqueville, le facteur qui les unit les uns aux autres, une idée qui se retrouvera plus tard au cœur de la philosophie du multiculturalisme à la canadienne ou de l'interculturalisme ici au Québec. Tocqueville, sixièmement, note la prospérité des campagnes et le bien-être des paysans sur leurs fermes, un aspect qu'il aurait cependant surestimé, car il n'a visité que la partie la plus prospère de l'espace canadien-français de l'époque, donc la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Québec et Montmagny. Québec est dans une position très pittoresque, écrit-il, entourée de campagnes riches et fertiles. Les villages que nous avons vus aux environs ressemblent extraordinairement à nos plus beaux villages. On n'y parle que le français, la population y paraît heureuse et aisée. Il décrit tout aussi favorablement la campagne qu'il a vue en allant vers le village de Saint-Thomas, donc aujourd'hui Montmagny. Toutes les campagnes que nous avons parcourues sont admirables de fertilité. Jointes au Saint-Laurent et aux montagnes du Nord, elles forment le plus complet et le plus magnifique tableau. Les maisons sont universellement bien bâties. Elles respirent toutes un air d'aisance et de propreté. Les églises sont riches, mais riches de bon goût. Leur décoration intérieure ne serait pas déplacée dans nos villes. D'ailleurs, si vous avez déjà visité les églises Beaumont, Saint-Vallier, Berthier, etc., vous pourrez constater à quel point le jugement de Tocqueville était bien posé. Analysant la structure sociale, je dis ça avec beaucoup de fierté parce que c'est ma région d'origine, je suis né à Montmagny. Voilà. Analysant la structure sociale, Tocqueville décrit les Canadiens comme étant dominés par les Anglais sur le plan économique, un aspect sur lequel il revient souvent. Toute la population ouvrière de Québec est française. On n'entend parler que du français dans les rues. Cependant, toutes les enseignes sont anglaises. Même remarque, d'ailleurs, à Saint-Thomas-de-Montmagny. Dans cette portion du Canada, on n'entend point l'anglais. La population n'est que française, et cependant, lorsqu'on rencontre une auberge ou un marchand, son enseigne est en anglais. J'ajouterai à Tocqueville que j'ai moi-même, dans mon enfance, fait les mêmes observations. Les commerces Magny-Montois affichaient en anglais l'Anglois Furniture, Montmagny Chainsaw. Et il a fallu attendre la loi 101 pour que les choses changent. Alors, le diagnostic tocquevillien, vous le voyez, a perduré, sa pertinence a perduré jusqu'à tard dans le 20e siècle. Huitièmement, Tocqueville livre une analyse fine de la classe des marchands et des professionnels canadiens qui sont alliés à leurs homologues anglais et écossais, qui partagent des intérêts communs et s'opposent aux politiques coloniales de la nouvelle mère patrie, l'Angleterre. Tocqueville a très bien vu l'existence de cette alliance. Je cite, « Il existe à Québec une classe d'hommes qui forment la transition entre le français et l'anglais. Ce sont des Anglais alliés à des Canadiens, des Anglais mécontents de l'administration et des Français en place. » C'est ça la classe dont il parle. Cette classe est représentée dans la presse périodique par la Gazette de Québec, mélange de français et d'anglais, dans les assemblées politiques par M. Nelson et probablement plusieurs autres que nous ne connaissons pas. Fin de la citation. La classe des marchands et des professionnels rêve d'une république canadienne. Mais Tocqueville note avec une grande lucidité que cette alliance entre les Anglais et les Canadiens au sein de cette classe risque d'être néfaste à la survie du fait français. C'est elle, la classe, que je crains le plus pour le sort futur de la population canadienne. Elle n'excite ni sa jalousie ni ses passions. Au contraire, elle est plus canadienne qu'anglaise d'intérêt, parce qu'elle fait de l'opposition au gouvernement, le gouvernement colonial. Au fond, cependant, elle est anglaise de mœurs, d'idées et de langue. Si elle prenait jamais la place des hautes classes et des classes éclairées parmi les Canadiens, la nationalité de ceux-ci serait perdue sans retour. Ils végéteraient comme les Bas-Bretons en France. Je continue. Mais si, dans cet effort, les classes intermédiaires et supérieures de la population canadienne abandonne les basses classes et se laisse entraîner dans le mouvement anglais, la race française est perdue en Amérique. Voilà donc, j'ouvre une parenthèse, une vision bien différente de celle de John Saul, que John Saul présente dans son ouvrage sur les frères siamois, présentant justement l'alliance entre les nationalistes québécois et la classe des hommes d'affaires du Haut-Canada comme étant un modèle canadien dont il fait la promotion. Tocqueville, au contraire, souligne justement les dangers que aurait pu représenter cette alliance. Tocqueville souligne le rôle important du clergé dans l'encadrement institutionnel des Canadiens français. Tocqueville décrit les ecclésiastiques comme les gens les plus distingués du pays. Ils ressemblent beaucoup, beaucoup à nos vieux curés français. Tocqueville voit bien comment la structure de la paroisse est le pivot de la survivance en dehors des villes où se concentre la population de langue anglaise, et il accorde un rôle clé au curé, donc au clerc, proche de la population. Le curé est bien véritablement ici le pasteur du troupeau. Ce n'est point un entrepreneur d'industrie religieuse comme la plupart des ministres américains. Tocqueville transcrit le contenu d'une entrevue avec M. Modelet de Montréal. En général, notre clergé est éminemment national. C'est en partie un résultat des circonstances dans lesquelles il s'est trouvé placé. Dans les premiers temps de la conquête et jusqu'à nos jours, le gouvernement anglais a sourdement travaillé à changer les opinions religieuses des Canadiens, afin d'en faire un corps plus homogène avec les Anglais. Les intérêts de la religion se sont donc trouvés opposés à ceux du gouvernement et d'accord avec ceux du peuple. Toutes les fois qu'il s'est agi de lutter contre les Anglais, le clergé a donc été à notre tête ou dans nos rangs, rapporte-t-il à Tocqueville. Et l'avocat interrogé observe candidement que les prêtres français fraîchement débarqués se montrent plus dociles envers le pouvoir anglais que le clergé local. Ce qui me fait croire que le caractère politique de nos prêtres est spécial au Canada, c'est que les prêtres qui nous arrivent de temps en temps de France montrent, au contraire, pour le pouvoir, une condescendance et un esprit de docilité que nous ne pouvons concevoir. Tocqueville précise dans une autre lettre, le curé est l'ami, le conseil de la population. Loin d'être accusé ici d'être partisan du pouvoir, les Anglais le traitent de démagogue. Le fait est qu'il est le premier à résister à l'oppression, et le peuple voit en lui son plus constant appui. Aussi, les Canadiens sont-ils religieux par principe et par passion politique. Le clergé forme là la haute classe, mais parce que l'opinion et les mœurs le placent à la tête de la société. Pour Tocqueville, le clergé joue un rôle actif dans la défense du fait français. Heureusement, la religion met un obstacle au mariage entre les deux races et crée dans le clergé une classe éclairée qui a intérêt à parler français et à se nourrir de la littérature et des idées françaises. Il précise dans son carnet, « Si la religion perd jamais son empire au Canada, c'est par cette brèche-là que l'ennemi entrera. » Dans son entretien avec Tocqueville, le député Nelson lui souligne le rôle du clergé dans la préservation de la langue, une observation que prend soin de noter le voyageur. « Ce qui maintient surtout votre langue ici, c'est le clergé. Le clergé est la seule classe éclairée et intellectuelle qui a besoin de parler français et qui le parle avec pureté. » Bref, Tocqueville voit bien que le clergé est actif dans la construction du Canada français par opposition au Canada nouveau de la classe des marchands, en train d'émerger comme nouvelle référence nationale. Dixièmement, Tocqueville observe que le niveau d'éducation de la population canadienne est plus faible que celui qu'il a noté aux États-Unis. Au total, cette race d'hommes nous a paru inférieure aux Américains en lumière, mais supérieure aux qualités du cœur. Quant aux qualités du cœur. La raison des Canadiens est peu cultivée, mais elle est simple et droite. Ils ont incontestablement moins d'idées que leurs voisins, mais leur sensibilité paraît plus développée. Tocqueville ajoute cependant que le système d'éducation se met peu à peu en place après une phase fort critique de sous-développement chronique pendant 70 ans. Tocqueville faisait preuve d'un réalisme modérément optimiste dans sa lecture du contexte et des institutions, mais il propose par contre une analyse beaucoup plus inquiétante sur la culture. Il se désole de l'absence d'élites cultivées canadiennes et s'inquiète des menaces qui pèsent sur la langue française. Tocqueville insiste sur le fait que la culture des Canadiens français est en quelque sorte restée figée dans le passé, qui lui rappelle la vieille France. Sa description du village de Sault-Sainte-Marie en témoigne. Toute la population de Sainte-Marie est française. Ce sont de vieux Français gais et en train comme leur père et comme nous ne le sommes pas. Tout en conduisant nos canots, ils nous chantaient de vieux airs qui sont presque oubliés chez nous. Nous avons retrouvé ici le français d'il y a un siècle, conservé comme une momie pour l'instruction de la génération actuelle. Le voyageur décrit les qualités du peuple, mais il se désole de n'avoir pas rencontré d'élite capable d'interpréter sa situation, contrairement à ce qu'il a vu aux États-Unis. Je n'ai encore vu dans le Canada aucun homme de talent, ni lu une production qui en fit preuve, écrit-il. Rappelons la visite qu'il fait dans un cabinet de lecture à Québec. J'ai été aujourd'hui dans un cabinet de lecture. Presque tous les journaux imprimés au Canada sont en anglais. Il paraît à Québec un journal appelé La Gazette, semi-anglais et semi-français, et un journal absolument français appelé Le Canadien. J'ai lu avec soin plusieurs numéros. Ils font une opposition violente au gouvernement et même à tout ce qui est anglais. Le Canadien a pour épigraphe notre religion, notre langue et nos lois. Il est difficile d'être plus franc. Le contenu répond au titre. Tout ce qui peut enflammer les grandes et les petites passions populaires contre les Anglais est relevé avec soin dans ce journal. J'ai vu un article dans lequel on disait que le Canada ne serait jamais heureux jusqu'à ce qu'il eût une administration canadienne de naissance, de principes, d'idées, de préjugés même, et que si le Canada échappait à l'Angleterre, ce ne serait pas pour devenir anglais. Dans ce même journal se retrouvaient des pièces de vers français assez jolies. En général, le style de ce journal est assez commun, mêlé d'anglicismes et de tournures étranges. Il ressemble d'ailleurs beaucoup aux journaux publiés dans le canton de Vaud, en Suisse. Alors, troisième point, nation et démocratie, la préoccupation de Tocqueville. Mais Tocqueville n'est pas seulement sociographe, comme je viens de l'évoquer dans la description qu'il donne du Canada. Il n'est pas seulement historien et philosophe politique. Il est aussi un sociologue au sens fort du terme, le père d'une nouvelle sociologie politique, je l'ai évoqué au début, comme le montre de manière magistrale Raymond Boudon dans son « Tocqueville aujourd'hui » paru l'an dernier. Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau, écrit Tocqueville, au début de la première démocratie. Pour y arriver, Tocqueville scrute la raison qu'ont les acteurs sociaux d'agir comme ils le font. Et il avance que les processus sociaux sont le produit de l'action des hommes et des femmes. Mais les hommes dont parle Tocqueville ne sont pas détachés du contexte social dans lequel ils vivent, et ils doivent composer avec le hasard autant qu'avec la nécessité, précise Boudon. La description sociographique de l'Amérique sous trois angles, que j'ai évoqués tantôt, le contexte, les institutions et la culture, est intéressante en soi, notamment dans le cas du Bas-Canada, comme on vient de le voir, et à elle seule, elle aurait suffi à faire de la démocratie un grand livre. Raymond Boudon soutient cependant que l'ouvrage a une portée encore plus grande, parce que le livre offre aussi une explication des choses. Je cite Boudon, « Le contexte détermine l'existence d'occasions, mais non le comportement des individus, lequel est l'effet de motivation et de raison. » C'est la perspective tocquevillienne. Citons encore Boudon. Tocqueville a compris qu'une sociologie scientifique suppose que l'on explique les phénomènes sociaux à partir des actions et des croyances des hommes et qu'il est essentiel de retrouver les raisons et les motivations compréhensibles qui les inspirent. On est donc loin du déterminisme de Durkheim, par exemple. Cette sociologie nouvelle se retrouve aussi dans les écrits de Tocqueville sur le Bas-Canada. Lorsqu'il réfléchit sur le sentiment national, sur le lien entre nation et démocratie, deux aspects sur lesquels j'aimerais maintenant insister. Tantôt, j'ai cité ce passage, « Le contenu répond au titre », à propos du Canadien. « Le contenu répond au titre », écrit Tocqueville, à propos du journal Le Canadien, dans l'extrait cité plus haut. Cette expression donne à penser que ce dernier a bien vu, non seulement qu'il existait un fort sentiment d'appartenance et d'identification canadienne, nationale chez les Canadiens, mais aussi comment le sentiment national se construisait à travers des discours. Pour parler de jargon de notre époque, une idée, d'ailleurs, vous l'avez reconnue, chère à Fernand Dumont. Tocqueville retrouve aussi cette opposition dans la langue courante, en rappelant une autre donnée d'observation. Les Anglais et les Français se fondent si peu que les seconds gardent exclusivement le nom de Canadien, les autres continuant à s'appeler Anglais. Tocqueville montre comment les acteurs sociaux construisent des représentations sociales partagées pour agir de concert avec d'autres dans le monde. Comment ils élaborent des idéologies communes, des savoirs partagés, des utopies mobilisatrices, comme celle des premiers arrivants d'Angleterre débarqués à Plymouth. Autrement dit, pour agir, les acteurs sociaux se donnent une interprétation commune du monde, basée sur une rationalité élargie, c'est-à-dire sur des intérêts, mais aussi des idées et des sentiments, comme le monde ce passage. Passage important. Tous les peuples qu'on a vus se confédérer avaient un certain nombre d'intérêts communs, qui formaient comme les liens intellectuels de l'association. Mais outre les intérêts matériels, l'homme a encore des idées et des sentiments. Liens intellectuels, idées et sentiments. Nous voilà dans l'ordre des représentations sociales et de l'interprétation du monde nécessaire pour la vie en société. Revenons encore une fois à la démocratie, au livre « La démocratie ». Ce qui maintient un grand nombre de citoyens sous le même gouvernement, c'est bien moins la volonté raisonnée de demeurer unis que l'accord instinctif et en quelque sorte involontaire qui résulte de la similitude des sentiments et de la ressemblance des opinions. Je ne conviendrai jamais que des hommes forment une société par cela seul qu'ils reconnaissent le même chef et obéissent aux mêmes lois. Il n'y a société que quand des hommes considèrent un grand nombre d'objets sous un même aspect. Lorsque, sur un grand nombre de sujets, ils ont les mêmes opinions, quand, enfin, les mêmes faits font naître en eux, les mêmes impressions et les mêmes pensées. Il ajoute plus loin, dans « Démocratie », les Anglo-Américains sont ainsi unis entre eux par des idées communes. Il serait possible de multiplier les citations pour montrer le rôle que jouent les représentations sociales au sens large dans la pensée de Tocqueville. Ce dernier accorde une grande place à la presse dans la fabrication de ses représentations partagées. La liberté de la presse ne fait pas seulement sentir son pouvoir sur les opinions politiques, mais encore sur toutes les opinions des hommes. Elle ne modifie pas seulement les lois, mais les mœurs. Je tâcherai de discuter la direction qu'elle a donnée aux idées, les habitudes qu'elle a fait prendre à l'esprit et aux sentiments. Je discutais avec mon ami Florent Sauvageau hier. Il organise un important colloque ici à Montréal à la fin septembre sur le rôle qu'a joué la presse dans tout le débat sur les accommodements raisonnables. Et en lisant son rapport, il a eu l'amabilité de m'en donner une copie à l'avance. J'étais très frappé par la justesse de cette analyse tocquevillienne qui vous aidera à comprendre le rôle de la presse si jamais vous assistez à ce colloque. Dans cette perspective, la nation apparaît comme une référence construite ou représentée, comme une expérience historique interprétée. Lorsque Lord Durham, cet autre célèbre voyageur, qui visite le Canada 10 ans seulement après Tocqueville, écrit qu'il a trouvé dans le Bas-Canada un peuple sans histoire et sans littérature, il illustre bien l'importance de la représentation de soi dans la vie collective et la nécessité de l'interprétation qui fonde la vie collective et le vouloir vivre en commun, le vouloir vivre ensemble dont parle Renan. Sans histoire écrite, un peuple risque de ne plus exister. On sait que François-Xavier Carnot sera piqué au vif par cette remarque et il s'engagera dans le projet de donner aux Canadiens français une histoire nationale qui servira de référence pour l'action collective. Le sociologue Fernand Dumont a donné forme dans son œuvre à cette perspective en définissant la nation comme une expérience historique interprétée plutôt que comme une donnée objective, comme une référence pour reprendre ses mots. Dumont montre clairement que ce qu'on pourrait appeler les facteurs objectifs, les structures, ou encore ce que Tocqueville nomme le contexte et les circonstances, ne suffisent pas à orienter l'action collective. Il faut aussi le travail d'une représentation qui va lui donner cohérence, une direction qui va fonder une pratique, pour reprendre le vocabulaire de Dumont. Dans son essai sur la nation, Françoise Ménonio reprend cette définition de la nation comme expérience historique, et elle en souligne le caractère modifiable. Tocqueville, je cite Françoise, Tocqueville prend grand soin de... Madame Ménonio, c'est une amie, donc je l'appelle Françoise. Tocqueville prend grand soin de préciser que le caractère national, tel qu'il l'étudie, et quoi qu'il recourt au terme de « physionomie », ne relève pas d'un déterminisme biologique ou psychologique, mais seulement d'une expérience historique singulière qui n'anéantit pas la liberté. Les caractères nationaux sont acquis, non innés et partant modifiables. Le Québec, sur ce point, apparaît comme une expérience fascinante à suivre et à étudier. Stéphane Dion avance dans ses écrits, avance que les écrits de Tocqueville sur le Canada reflètent la pensée de ce dernier sur les liens entre nationalisme et démocratie libérale. Je cite M. Dion, « Son regard sur les États-Unis est libéral et le thème du nationalisme n'apparaît qu'en second plan. Or, le raisonnement est inversé quand il s'agit du Canada, où le libéralisme n'est plus qu'un élément dans l'affrontement de deux nations. » Fin de la citation. Stéphane Dion soutient que le voyage de Tocqueville au Bas-Canada a éveillé, je le cite encore, « a éveillé chez lui à la fois une forte réaction nationaliste et une nostalgie d'aristocrate. » Selon lui, Tocqueville s'écarte ici de sa méthode habituelle, en privilégiant l'opposition entre des caractères nationaux plutôt que de relier les différences entre les peuples à leur histoire politique et sociale. Commentant ce qui se passe au Canada, Tocqueville aurait donc, pour Dion, hésité ou oscillé entre deux modes d'explication des faits sociaux, une explication culturaliste, par référence au tempérament national, et une explication plus tocquevillienne par les effets pervers induits par la centralisation gouvernementale et par le contexte historique. Notre lecture est un peu différente. Bien sûr, Tocqueville retrouve avec émotion les traits de ce qu'il appelle lui-même une vieille France en terre d'Amérique. L'émotion est encore plus vive dans son cas parce que certains traits nationaux si typiques qu'il observe sont ceux de sa Normandie bien-aimée. Il était maire du village de Tocqueville. Mais Tocqueville ne s'enferme pas dans la nostalgie du constat. Il s'interroge aussi en sociologue sur l'avenir, sur le devenir des Canadiens et sur ce que Mélenchon appelle justement l'expérience historique singulière. Et il n'entrevoit pas de réponse claire, tout simplement parce que l'avenir est imprévisible. Raymond Aron explique pourquoi Tocqueville adopte une telle position dans ses analyses. Et, je cite Aron, « il ne croit pas que l'histoire passée a été commandée par des lois inexorables et que les événements à venir soient prédéterminés. Tocqueville, c'est Aron toujours qui parle, comme Montesquieu, veut rendre l'histoire intelligible. Il ne veut pas la supprimer. » Autrement dit, l'histoire relève de l'action. Le diagnostic de Tocqueville sur l'avenir du Canada français illustre parfaitement cette idée. Tocqueville ne sait pas si la nation canadienne-française va survivre. Mais il entrevoit son avenir avec réalisme, en dégageant les facteurs qui seraient susceptibles d'en assurer le développement, mais aussi en précisant les obstacles qu'il va rencontrer. Il analyse avec lucidité le rôle des classes, je l'ai évoqué, dans cet avenir imprévisible, et en particulier le rôle du clergé et celui des marchands et des professionnels. Mais parviendront-ils jamais à reconquérir leur nationalité? C'est ce qui est probable sans malheureusement être assuré, soutient Tocqueville. Un homme de génie qui comprendrait, sentirait et serait capable de développer la passion nationale aurait ici un admirable rôle à jouer. Il deviendrait bientôt l'homme le plus puissant de la colonie, mais je ne le vois encore nulle part. Ailleurs, Tocqueville écrit « Celui qui doit remuer la population française et la lever contre les Anglais n'est pas encore né. » Plusieurs commentateurs ont avancé que Tocqueville n'avait pas vraiment pris la mesure de la révolte qui s'annonçait dans la colonie et qui surviendra 6 ans seulement après son séjour, les troubles de 1837-38-39. Il a par contre parfaitement identifier la classe sociale qui sera au cœur de la rébellion de 1837-38. Au terme de l'entretien qu'il a eu avec un négociant, n'a-t-il pas ce mot d'un fin observateur de la situation? Il est rare qu'on parle avec tant de passion de ceux dont on ne redoute rien. Résumons les éléments essentiels de l'expérience historique canadienne telle que vue par Tocqueville. D'un côté, Tocqueville déplore l'absence d'un leader politique au Bas-Canada. Claude Corbeau, d'ailleurs, dans son ouvrage, raconte qu'il n'a pas rencontré Papineau. Après avoir examiné la correspondance de Papineau, M. Corbeau a montré que ce dernier séjournait à Montebello pendant la semaine ou les 10 jours que Tocqueville a passé entre Montréal et Québec et Montmagny. Il prend conscience de l'inégal poids du nombre que nous avons évoqué plus haut. Ou encore, il s'interroge sur les implications de l'association des marchands anglais avec la bourgeoisie canadienne. Mais de l'autre, Tocqueville voit l'attachement des gens ordinaires à la culture française, dans les campagnes. Il observe le rôle actif du clergé au sein de l'organisation sociale qu'est la paroisse et il voit que les Canadiens et les Anglais ne se mêlent pas par mariage et que la religion les sépare. Autrement dit, l'explication de la coexistence des deux nations et des deux sentiments nationaux n'est pas d'abord culturaliste, mais elle reste au contraire très tocquevillienne et en cela, je me permets d'exprimer un certain désaccord avec mon collègue Stéphane Dion. Ex-collègue. Inspiré de donc une explication très tocquevillienne, inspirée de sa sociologie politique, la nouvelle discipline qu'il appelait de ses voeux au début de la première démocratie, comme on l'a rappelé plus haut. Cette position intellectuelle apparaît nettement quelques années plus tard dans le commentaire qu'il adresse à Henry Reeve, greffier du Conseil privé à Londres après les troubles de 37-38. Je cite Tocqueville. Les Canadiens forment un peuple à part en Amérique, peuple qui a une nationalité distincte et vivace, peuple neuf et saint, qui a sa langue, sa religion, ses lois, ses mœurs, et qui est plus aggloméré qu'aucune autre population du Nouveau Monde, qu'on pourra vaincre, mais non fondre dans le lieu de la race anglo-américaine. Le temps seul pourrait amener ce résultat, mais non la législation et l'épée. Remarquez au passage que, comme tout auteur, il arrive à Tocqueville de se contredire. Il a évoqué la vieille France, bon, j'en ai parlé longuement, et là, il vient de parler du peuple neuf et saint. Bon, alors, tout homme a ses contradictions, Tocqueville aussi. Mais Tocqueville ajoute aussitôt cette remarque qui montre bien qu'il ne se limite pas à une explication culturaliste. Tocqueville met en cause le gouvernement et non pas une guerre entre races, pour reprendre les termes de l'époque. Je le cite, « À l'époque de mon passage, les Canadiens étaient pleins de préjugés contre les Anglais, qui habitaient au milieu d'eux. Mais ils semblaient sincèrement attachés au gouvernement anglais, qu'ils regardaient comme un arbitre désintéressé, placé entre eux et cette population anglaise qu'ils redoutaient. Comment est-il arrivé qu'ils soient devenus les ennemis du même gouvernement? Je l'ignore. Mais j'ai peine à croire que l'administration coloniale n'ait pas quelques grands reproches à se faire, sinon sur le fond des choses, au moins pour la forme. » Bon, il me faut conclure, le temps file. Alors, Tocqueville est un aristocrate favorable à la démocratie, cela a souvent été répété. Et il a donné forme à l'inquiétude de son temps, selon le mot de Françoise Mélonio. D'après Birbaum, Tocqueville était un gentilhomme dédaigneux des systèmes. Il n'a pas essayé de formuler de façon rigide un système de pensée, ni encore moins une théorie générale. Ses écrits sur le Canada illustrent sa posture intellectuelle, sa méthode, sa philosophie politique. Il observe et s'interroge. Nous l'avons maintes fois signalé. Il n'est pas indifférent et il laisse clairement voir ses émotions, mais sans jamais oublier ses idées maîtresses. Le détour par le Canada à l'âge de 25-26 ans a-t-il marqué l'esprit et la pensée de Tocqueville? André Jardin, son biographe, 1984, le donne à penser, au passage, pour ce qui est de sa réflexion sur le système colonial français, qu'il juge trop centralisateur. Mais les commentateurs accordent finalement peu d'attention à ce voyage en sol canadien dans la formation de sa pensée, sans doute parce que Tocqueville n'a pas publié d'ouvrage achevé ni même un rapport sur l'ancienne Nouvelle-France, ce qui eut attiré l'attention, contrairement d'ailleurs à ses écrits sur l'Algérie, plus connus et commentés, souvent d'ailleurs mal commentés, comme ce fut le cas récemment. Plus près de nous, Jean-Louis Benoît, autre biographe qui a fait paraître un ouvrage en 2005, a fait ressortir un aspect plus important en soulignant que le type de catholicisme qu'a observé Tocqueville au Bas-Canada a conforté chez lui, et je cite Benoît, l'idée qu'il a depuis son arrivée sur le continent américain, la Révolution française n'a été anti-religieuse que par un accident de l'histoire. On reconnaît dans cette interprétation la perspective tocquevillienne sur l'histoire qui a bien été dégagée par Aron et Boudon. L'expérience américaine et l'expérience canadienne, j'ajouterais, a contribué à façonner sa manière de voir les choses. Le regard de Tocqueville sur le Bas-Canada est maintenant mieux connu et il nous éclaire sur l'histoire canadienne et québécoise. Mais ses écrits canadiens, je crois, nous permettent aussi de mieux cerner les intentions du grand sociologue, historien et philosophe politique qu'était Alexis de Tocqueville, Alors, je vous remercie. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une période de questions. Si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre, bien sûr. Il y a deux micros à votre disposition.
Voilà, le passage de Tocqueville au Bas-Canada lui permet d'observer une société en situation coloniale. Est-ce qu'il a été tenté de proposer l'annexion? Est-ce qu'il en a déjà parlé, compte tenu qu'il voyait les États-Unis comme un pays très développé où la démocratie était beaucoup plus avancée?
Non, pas à ma connaissance. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu quoi que ce soit chez lui en ce sens-là. Non. Et je pense qu'au contraire, il ne proposait pas, ou n'avait pas en tête cette annexion, parce que d'après plusieurs extraits que j'ai cités là, il évoque le fort sentiment national qui existe ici. Et je ne crois pas qu'il eût été partisan d'une telle entreprise. D'autres observations ou questions? Oui, monsieur. Vous pouvez rester, je pourrais répéter la question si vous voulez. Oui, en fait, c'est une question difficile, bien difficile que vous posez là. Disons, je répondrais comme ceci. Les colonies anglaises ont été établies par des migrants qui étaient plus ou moins en rupture de ban avec leur société. Hein. Les premiers arrivants à Plymouth étaient des dissidents, comme on le sait. Ils se sont établis sur des terres fertiles et ils ont eu la chance d'avoir un climat avec eux, des terres plus disponibles, etc., une population finalement qui a grandi vite, qui a été aussi alimentée par plusieurs bateaux, par une immigration continue, un flux continu. Tandis que, on le sait par les travaux de nos démographes ici à l'Université de Montréal, que l'immigration française a été très, très faible à ce moment-là. Elle a été très faible et elle s'est dispersée sur un énorme continent. Depuis, au fond, la vallée du Saint-Laurent, le centre, les Grands Lacs, etc., jusqu'en Nouvelle-Orléans. À ce moment-là. Et vous le voyez, toute cette région c'était la Nouvelle-France. La Nouvelle-France allait de Québec, et même de la Gaspésie, etc., mais disons en gros de Gaspé, Québec, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et c'était donc un immense territoire très peu peuplé. Les Français avançaient loin, avec peu de population, établissaient des alliances avec les tribus amérindiennes, de sorte qu'ils étaient en situation de fragilité, finalement. Et quand le résultat de la guerre de 7 ans, enfin, ou des guerres qui ont eu lieu sur le territoire européen fut connu, eh bien, finalement, la France a laissé tomber ou n'était pas en position de maintenir la colonie. Non. Ce que, d'ailleurs, déplore Tocqueville lorsqu'il parle de l'ignominieux traité de Louis XV. Enfin, c'est une question, une grande question que vous posez. Alors, j'ai donné une explication plutôt en termes structurels, là, mais je pense qu'il y a aussi d'autres explications qu'on pourrait donner à cette question qui appellerait bien des développements. Alors, d'autres, oui? Oui.
Et qui parle français et en même temps comprenant mal effectivement ce que vous disiez. Et est-ce qu'il a manifesté quand même un intérêt pour les structures culturelles qui existaient déjà à Québec, ou est-ce que son au cours de séjour ne lui a pas permis de se rendre compte effectivement de la vie intellectuelle?
Oui.
Comment s'est fait cette improvisation, ce voyage? Il était si improvisé que ça?
Je pense qu'il était, oui, improvisé un peu. Il faut voir qu'à l'époque, le territoire n'est pas organisé. Hein. Tocqueville voyage en canot, à cheval. Ben, il est jeune, il a 25-26 ans, donc il peut... il demande l'aide des Amérindiens, il chavire sur le Mississippi, il a failli se noyer, c'est-à-dire on le sauve in extremis accroché à une roche. Bon. Alors, est-ce que son voyage était planifié? Non, d'ailleurs j'ai cité une lettre à sa sœur qui dit que c'était pas planifié. Bon, et tout à coup, il décide, on dirait aujourd'hui, de prendre un peu de vacances. Son biographe raconte qu'il a travaillé très, très fort dans ses recherches sur le système pénitentiaire. Bon. Et là, ben, après des semaines et des semaines de recherches, bon, compiler des documents, etc., il décide de voir le grand espace, de voir les Amérindiens, comme je l'ai cité, là, de pousser une pointe vers les Grands Lacs et d'aller au-delà du paysage civilisé qu'il a connu, là, la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est... J'avais raison, c'est un voyage qui n'est pas très bien planifié. Par contre, François de Mélogneau souligne qu'il avait dans ses poches quelques adresses à Québec et à Montréal, qui lui ont des adresses donc de contact à faire. Autrement dit, il n'est pas parti les poches complètement vides. Il a beaucoup correspondu à l'époque et... il avait, en un sens, peut-être planifié un peu, disons, ce voyage aussi d'une certaine façon. Mais je pense que ça s'est fait un peu au dernier moment. À l'époque, il n'y avait quoi, pas d'Internet, pas de moyens de communication, pas de téléphone, etc. Alors, je pense qu'on devait improviser beaucoup aussi. Là. Mais il avait, en fait, un plan clair au départ pour ce qui est de la visite qu'il faisait dans les principales villes de Nouvelle-Angleterre. Ça va. Mais il a poussé des pointes ici ou là, parce que je l'ai noté, c'est un esprit extrêmement curieux, c'est un esprit, c'est un homme de terrain, disons. Il aime ça, aller s'asseoir au coin du feu, discuter avec les gens, parler, bon, etc. Mais vous avez raison de souligner qu'en 14 jours, on ne peut pas aller au fond des choses. Là. Ce qui fait, par exemple, qu'on lui a reproché, les historiens lui ont reproché, d'avoir un peu une vision idéalisée de la campagne. Évidemment, il voit les villages les mieux structurés, les très beaux villages d'ailleurs qui vont de Lévis à Saint-Thomas, à Montmagny, bon, alors Beaumont, Saint-Vallier, bon, les villages de Bellechasse. Alors, effectivement, les terres sont fertiles et d'ailleurs, on est frappé, moi je connais bien cette région-là, on est frappé quand on circule sur la route le long du fleuve de la grande ressemblance avec les paysages de Normandie. De la grande ressemblance, vous n'avez pas idée, là, je vous souhaite de faire un tour, de faire ce voyage de Lévis, disons, à Montmagny, La Pocatière, jusqu'à Rivière-du-Loup, disons. Et je l'ai fait, par exemple, avec Raymond Boudon, quand il a été professeur invité au département de sociologie à Laval. Bon, un samedi, avec sa femme, je l'ai amené jusqu'à La Pocatière, donc, par les vieilles routes, on s'est arrêté dans les villages, visiter les cimetières, bon, etc. Et Raymond Boudon, qui a une résidence en Normandie et qui a une grande affection pour la Normandie, rappelait constamment à sa femme, « Regarde comme c'est beau, regarde, on se croira en Normandie, on se croira en Normandie. » Alors, donc, ce n'est pas surprenant que Tocqueville ait été étonné, là, et... je pense qu'il faut noter avec raison, là-dessus, Stéphane Dion a vu juste, Tocqueville, qui reste un homme de raison rationnelle dans son voyage américain aux États-Unis, eh bien, lorsqu'il arrive au Canada, là, c'est le sentiment qui prend le dessus aussi. Mais malgré tout, je pense que, je l'ai dit dans ma conclusion, que malgré les épanchements, les sentiments qu'il éprouve, il garde toujours la tête un peu froide pour analyser. Mais disons, le cœur, son cœur est là et son cœur même saigne un peu quand il voit ce qu'il voit. Voilà. Oui?
Premièrement, je veux juste vous demander d'avoir un peu de patience avec mon français inadéquat, mais je voudrais vous remercier pour nous apprendre plus sur l'œuvre d'Alexis Tocqueville, qui est même chez nous en Nouvelle-Zélande bien connue comme référence sur le thème de la démocratie. De ce que je connais de Tocqueville, il a aussi développé quelques thèmes très, très pertinents au niveau de l'analyse. Je m'intéresse de savoir de votre, selon vous, comment ce type d'analyse se pourra appliquer ici, au Québec. Ce sont les thèmes que vous avez touchés au début, c'est l'égalité, et aussi le thème des sociétés civiles, c'est-à-dire, il a remarqué de son voyage ici qu'il y a pas mal d'associations civiles, des gens qui s'organisent pour poursuivre certains objectifs partagés. Et il a aussi remarqué qu'il y a une grande différence entre le contexte, la situation en Europe et les États-Unis, c'est la propriété des frontières, c'est-à-dire l'accès aux grands aux gens en général, l'accès à la propriété ici en Amérique du Nord. Par rapport aux Europe, où c'était tous dans des situations comme l'humaine aristocratie, le grand fond. La question que j'ai ici, si on suit Alexis de Tocqueville en disant que grâce à ça, qui c'est une analyse économique, si on veut, qu'il y a aussi un accès à tout aspect social et politique qui existait aux États-Unis. C'est-à-dire qui est le fondement de la démocratie, le fondement de la possibilité de s'associer, d'agir au sein politique. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport ici en Québec? Je ne connais pas assez l'histoire du Québec, qu'est-ce que c'était le développement des anciennes seigneuries lors de la Nouvelle-France et tout ça. Mais comme vous, j'ai aussi passé des temps auprès de Montmagny. J'ai regardé les paysages là et vous avez raison, oui, ça ressemble beaucoup à la Normandie où j'ai vécu plus d'un an. Sauf qu'il y a une grande différence entre ce qui est, si on a Normandie, les propriétés foncières sont plus limitées. Et ici, il y avait c'était à une autre échelle. Et je demande si ça aussi représente certaines économies de base qui est différent par rapport à l'Europe. Et je me demande si cette différence des économies foncières, si on veut, je pense que c'est ça, une bonne expression, si à base de ça, il y a aussi un développement différent ici en Québec qui a posé une conséquence sur le développement de la démocratie ici. Et je vais aller un peu plus loin, au-delà de la question nationaliste, si on veut, mais plutôt qu'est-ce qu'on pourrait voir d'une perspective économique. Ça, merci, j'espère que je m'ai bien exprimé.
Alors, vous avez plusieurs questions intéressantes. Là. Alors, sur l'égalité, ça, je pense, c'est une grande observation de Tocqueville. Tocqueville, effectivement, s'interroge sur ce que va devenir la démocratie dans les sociétés qu'il connaît, là, en Europe, c'est-à-dire Angleterre, Allemagne, France en particulier. Et aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va aux États-Unis pour voir, étudier sur place comment se met en place l'organisation du système fédéral et comment la démocratie opère, si on veut. Là. C'est sa grande préoccupation, ça. Il est aristocrate de cœur et démocrate de raison et il voit bien que l'ancien monde qui fut celui de sa famille dans le passé ne peut plus exister, qu'il y aura un monde nouveau, si on veut. Bon. Et lorsqu'il arrive aux États-Unis, eh bien, il découvre une grande idée qui est celle de l'égalité, vous l'avez évoquée. Et il avance que la poursuite de l'égalité va être désormais le ressort qui va faire fonctionner les démocraties, et qui va assurer le succès de la démocratie, des démocraties, si on veut. Et il part de la passion de l'égalité. Bien sûr, il observe de grandes inégalités devant lui. Bien entendu, aux États-Unis, il y a de grandes familles, etc. Mais en même temps, il voit, et là j'enchaîne sur votre deuxième question, que l'organisation du territoire aux États-Unis permet justement aux individus de bâtir une sorte de base qui affirme leur individualité, c'est-à-dire la propriété privée. L'espace est tellement grand que les gens peuvent construire leur maison, développer de nouveaux territoires, s'étendre vers l'ouest, etc. Alors, et il voit aussi dans les associations, vous avez évoqué avec raison aussi, dans les associations, un mécanisme de fonctionnement de la démocratie américaine. D'ailleurs, il a plusieurs chapitres dans son ouvrage « La démocratie 1 » sur les associations, l'importance des associations. Et il est frappé de voir aux États-Unis le grand nombre d'associations. Et pour lui, ça va devenir aussi un élément de ce que vous avez appelé la société civile. Évidemment, ce terme-là n'apparaît nulle part dans son œuvre. C'est un concept de notre époque, ça, société civile. Mais si on lit Tocqueville avec le langage qui est le sien, eh bien, on s'aperçoit qu'il donne un très grand rôle à la vie associative, à ce moment-là, à la vie associative. Et donc, le génie qu'il a eu de voir le rôle de l'égalité ou la passion de l'égalité, malgré en fait le fait qu'elle n'était pas complètement réalisée, bien, montre qu'il avait un peu de génie. C'est un peu comme Marx, par exemple, qui analyse la condition ouvrière à l'époque où la société qu'il avait sous les yeux était encore une société marquée par la paysannerie. À l'époque de Marx, il y avait quoi, 15 % d'ouvriers. Mais Marx voit la grande force de l'avenir qui se met en place. Alors, c'est un peu cette qualité de visionnaire qu'on retrouve chez Tocqueville à ce moment-là. Donc, égalité, association, l'occupation de l'espace. Mais vous avez raison, l'occupation de l'espace dans la vallée du Saint-Laurent est tout à fait différente de celle qu'on retrouve en Normandie. Ici, l'espace s'organise autour du rang parce que les colons français, en fait, les habitants de Nouvelle-France, les Canadiens, développent un territoire et se gardent un accès au fleuve ou à la route et préfèrent développer à ce moment-là des rangs, donc en longueur, développer leurs fermes en profondeur, alors qu'en Normandie, c'est tout à fait différent en ce moment, tout à fait différent. Vous avez raison. Mais moi, je parlais du paysage. Le paysage ressemble. Mais évidemment, la forme d'occupation de l'espace n'est pas la même. Ça, vous avez tout à fait raison.
Moi, je suis un peu sceptique sur Tocqueville. Connaissant l'histoire du Québec depuis 1820, Tocqueville n'invente rien parce que les patriotes, en partant de 1820, puis en consultant la Minerve et le Canadien, on a tout ce que Tocqueville nous dit. Pourquoi aussi, je m'interroge, pourquoi Tocqueville ne parle pas d'esclavage aux États-Unis? De l'esclavage. C'était un thème assez voyant.
Oui, il en parle. Il en parle dans son œuvre, mais écoutez, je ne peux pas parler de tout Tocqueville dans un exposé d'une heure. Je me suis centré sur le Bas-Canada, bien
oui,
sûr.
Oui.
Mais oui, il en parle, effectivement.
Oui.
Et il voit bien venir les problèmes que ça va poser. Il les a vus, il a bien vu. Il a des pages admirables là-dessus, sur l'esclavage. Oui. Tocqueville, c'est un fin observateur. Il parle de tout dans son œuvre.
Oui. Tocqueville est venu en Amérique pour étudier le système pénitentiaire, en premier. Et c'est tous des thèmes. Moi, j'ai la Minerve de 19 mars 1832. Tocqueville retournait en France. Et on dit, « Aussi avons-nous vu le gouvernement actuel de la France députer deux de ses citoyens pour se procurer des renseignements sur cette partie importante des institutions sociales. M. Tocqueville et Beaumont sont venus en Canada. S'ils avaient visité nos prisons, quel contraste auraient-ils eu à leurs yeux? » Voyez-vous, c'était dans le temps, et je ne sais pas si... si le correspondant, l'auteur a rencontré Tocqueville. Et puis, d'après moi, la démocratie en Amérique, il s'est inspiré de tous les écrits qui sont parus en France. Monsieur Lemoutte, qui était déjà retourné en France, il y a eu certainement des complices pour écrire son livre. C'est tout.
Très bien. En fait, les complices, je ne sais pas. Je pense que Tocqueville avait lui-même un très grand talent littéraire. Vous avez bien reconnu les qualités de son style dans les nombreuses citations que je vous ai lues. Il a été président de l'Académie des sciences morales et politiques. Et je pense donc que ses pairs ont reconnu ses qualités intellectuelles. Il avait la capacité d'écrire par lui-même. Est-ce qu'il a eu des assistants ou de l'aide pour... je n'en sais rien. Mais vous avez raison de noter qu'il a beaucoup documenté ses deux ouvrages, La démocratie en Amérique. Il a pris beaucoup de temps pour les écrire. Lorsqu'on regarde les archives de Tocqueville à Valogne, pas à Valogne, mais au château de Tocqueville, près de Valogne, on voit qu'il procède en trois temps, si on veut. Il a des carnets, des piles de carnets avec une écriture... En pâte de mouche, un peu, là, des dessins, etc. Puis, ensuite, il écrit une première version. Là, et après ça, bien, il recompose une autre version qu'il va donner à l'imprimeur. Et je suppose qu'il corrige aussi par la suite. Là. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait très fort ses textes, on le voit. Voilà. Pour les prisons à Québec, je n'en sais rien. Est-ce qu'il a visité la prison? Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu. Il faudrait que je relise un peu, mais à ma connaissance, je ne crois pas avoir vu de référence à ça dans les ouvrages que j'ai parcourus. Ah, madame?
Bonsoir. On reconnaît généralement l'importance de l'information en démocratie et je suis frappée de remarquer que Tocqueville s'était intéressé lors de son passage au Bas-Canada aux médias canadiens. Vous avez mentionné, entre autres, la Gazette de Québec et le journal Le Canadien. J'aimerais savoir, outre les observations qu'il a faites de ces deux journaux-là, ça semble être des observations assez préliminaires, est-ce qu'il avait une analyse des médias à l'époque? Et quand il est allé aux États-Unis dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, est-ce qu'il fait une certaine analyse des journaux américain, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux?
Oui, il fait une analyse des journaux américains aux États-Unis. Il note leur rôle très important, bien sûr. J'ai donné une citation et même une description de ce qu'il a lu dans le journal Le Canadien, là, en notant qu'il y avait des pièces littéraires assez jolies. Et il note aussi le caractère enflammé. Quand il dit, par exemple, on insiste sur tout ce qui peut soulever les passions, on raconte tout ce qui peut nous amener à critiquer les Anglais, pour reprendre ses propres mots. Donc, vous voyez qu'il accorde à la presse un rôle très important. Et je pense que Tocqueville voyait aussi en Europe la naissance de la presse ou d'une presse d'idées, etc. Et certainement qu'il lui accorde un rôle majeur aussi. Nul doute. Alors, madame me fait signe, donc nous allons nous quitter là-dessus. Alors, merci d'être venue et bonne fin de soirée.